RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Tamara Al-Rifai, la directrice des relations extérieures et de la communication de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens.
Bonjour Tamara Al-Rifai.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous depuis le Caire. Nous entrerons la semaine prochaine dans le cinquième mois de guerre entre Israël et le Hamas. Le bilan de la guerre approche 30 000 morts à Gaza selon le Hamas. Et les négociations s'intensifient en vue d'une nouvelle trêve. Un vent d'optimisme. Est-ce que vous y croyez à une nouvelle trêve ?
Il faut continuer à y croire. C'est le seul moyen d'apaiser un peu la situation, de ramener de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de rassurer la population civile que le monde continue de s'inquiéter pour eux. Donc il faut y croire. Nous attendons, nous retenons notre souffle pour s'assurer qu'il y aura effectivement cette pause. Nous espérons qu'elle se transformera en un véritable cessez-le-feu et qu'on arrive à trouver une solution plus durable pour une situation à Gaza qui aujourd'hui est catastrophique.
Espérez-vous que cette possible trêve ait lieu avant le début du Ramadan qui commencera vraisemblablement le 10 mars prochain, le début du Ramadan qui est régulièrement cité comme date butoir ?
C'est vraiment une date butoir, comme vous dites. Et puis surtout, le début du Ramadan, c'est dans 12 jours. Donc même 12 jours, c'est déjà très très long. Mais disons que pour cette région, pour les musulmans en général, le Ramadan est un mois où il faut mettre de côté les armes, est un mois sacré. Et donc nous espérons réellement que si ce n'est pas avant le début du Ramadan, mais au moins le premier jour du Ramadan, nous pourrons effectivement avoir une bande de Gaza plus calme et un espace humanitaire plus large, plus humain.
Les conditions de cette possible trêve à venir sont encore très floues. Selon vous, quelles seraient de bonnes conditions ?
Nous avons, en tant que UNRWA, la plus grande agence humanitaire des Nations Unies à Gaza, nous avons condamné dès le début les attaques du 7 octobre. Donc nous espérons que la trêve commencera, la pause commencera avec un retour des otages. Et avec un cessez-le-feu, donc mettre les armes de côté, arrêter les bombardements, et surtout d'agrandir le flot d'aide humanitaire, de nourriture, de médicaments, de personnel humanitaire qui entre dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous avons réellement peur d'une famine qui est très très proche. Nous avons observé un déplacement en masse de la population civile, une destruction de plus de 60% des domiciles, un retour quasiment impossible à certaines zones de la bande de Gaza à cause des explosifs qui restent des combats. Donc la situation est tellement dramatique, nous espérons réellement que les parties qui négocient réussissent à mettre en place, si ce n'est que le début d'un accord qui se transformera en un calme de plus longue durée.
Dans les négociations actuelles, il y a deux points qui sont bloquants. D'une part, le retour des déplacés palestiniens dans le nord de Gaza. D'autre part, la fin des opérations armées d'Israël. Le Qatar est un partenaire central dans les efforts de stabilisation de la région. Souligne l'Élysée, c'est lui en ce moment qui est à la manœuvre. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi ?
Le Qatar est un grand partenaire de l'UNRWA. Le Qatar est un pays qui soutient nos opérations humanitaires, il nous soutient politiquement et financièrement. C'est un pays qui est impliqué dans plusieurs problématiques de la région et comme vous, nous suivons de près l'implication du Qatar dans ces négociations. Pour nous, pour une agence humanitaire, ce qui nous intéresse le plus, ce qui est très important pour nous, c'est un pays d'influence sur cette crise continue de soutenir la plus grande agence humanitaire dans la bande de Gaza.
Et on viendra tout à l'heure aux polémiques autour de l'UNRWA, mais d'abord restons sur ces négociations en ce moment, sur cette trêve à Gaza. Trois périodes de cessez-le-feu de 40 à 45 jours sont prévues, permettant la libération d'otages israéliens par le Hamas et de Palestiniens détenus en Israël, ainsi que l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Est-ce que c'est assez, 40 à 45 jours ?
Ce n'est jamais assez, comme vous le dites très bien, ce n'est jamais assez quand les frappes sont si fortes, quand les combats sont si violents, quand plus de 80% de la population est déjà déplacée, a perdu leur domicile, les abris sont encombrés, et puis surtout, vous avez touché à l'aide humanitaire. Nous avons remarqué ce dernier mois que l'aide humanitaire qui entre à Gaza, qui déjà était très très limitée depuis le début du conflit, a baissé de plus de 50%. Nous parlons aujourd'hui d'une moyenne de 60 camions d'aide humanitaire par jour entrant pour une population de plus de 2 millions, 2,2 millions. Je vous rappelle juste par comparaison, une petite épicerie de quartier reçoit 8 camions de nourriture par jour. Or, c'est une population de 2,2 millions qui est assiégée depuis maintenant plus de 4 mois, reçoit 60 camions d'aide humanitaire, donc qui comprend la nourriture, les tentes, les couvertures, les médicaments. La population est effectivement affamée.
Selon les informations que vous avez, justement, quelle est la situation aujourd'hui dans la bande de Gaza, peut-être d'abord au sud?
Très bien. Au sud, c'est la seule partie de la bande de Gaza où l'UNRWA et les humanitaires en général continuent d'avoir accès. Donc, on a les informations les plus précises. Et même avec cet accès, ce que nous observons, c'est une situation absolument catastrophique. J'étais moi-même dans la bande de Gaza il y a quelques semaines. Tout le monde a faim. Les abris que nous gérons, les abris de l'UNRWA, sont tellement encombrés qu'on parle de 500 personnes par toilette, 2500 personnes par douche, une situation sanitaire dans ces abris absolument déplorable. Mais encore, les gens qui ont trouvé 1 mètre carré par personne dans ces abris sont ceux qui ont de la chance, parce que pour tous les autres, pour la plupart, ils dorment à l'extérieur, ils dorment sous les frappants. Donc, situation sanitaire déplorable, situation de santé très très difficile avec des maladies qu'on observe maintenant partout, l'hépatite A par exemple, nous observons aussi des maladies respiratoires, des maladies de la peau à cause de manque d'hygiène et à cause de l'encombrement et de l'entassement. 12 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza continuent de fonctionner, mais partiellement seulement, donc pas possible de faire des chirurgies, des opérations. 7 de nos centres de santé, donc pour vaccins, santé de femmes enceintes, etc., 7 seulement fonctionnent. Donc tout ça, c'est déjà dans le sud. Dans le nord, les humanitaires n'ont plus accès. C'est une zone complètement fermée où les indicateurs de faim, de famine, sont les plus élevés maintenant, justement parce qu'on n'arrive plus à faire acheminer de la nourriture et de l'aide humanitaire.
Y a-t-il une famine en ce moment dans la bande de Gaza?
Selon les indices scientifiques de famine, ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est 4,6% des nouveau-nés, des bébés entre 6 et 18 mois sont aujourd'hui mal nourris par rapport à moins de 1% avant la guerre. Nous savons aussi que nos équipes médicales observent de plus en plus d'enfants, donc sous 12 ans, moins de 12 ans, mal nourris ou indiquant, ayant des indices d'être mal nourris. C'est extrêmement inquiétant pour nous, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les femmes enceintes et pour les personnes âgées, mais pour toute la population.
Et pour toute la population, globalement, il y a une famine ou bientôt il y aura une famine?
Ce que nous disons, oui, que bientôt il y aura une famine si on n'arrive pas à agrandir le flot d'aide humanitaire. Et justement, pour revenir à votre question, cette trêve, cette pause humanitaire est extrêmement importante pour pouvoir acheminer beaucoup plus de nourriture et d'aide médicale.
Nous sommes avec Tamara Al-Rifai, la directrice des relations extérieures et de la communication de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, agence au centre d'une controverse depuis qu'Israël a accusé 12 de membres de l'agence d'implication dans l'attaque du 7 octobre. 16 pays ont suspendu leur financement pour un total de 450 millions de dollars. La semaine dernière, le directeur de l'UNRWA a tiré la sonnette d'alarme en évoquant un point de rupture. Est-ce que l'agence pourra encore travailler demain?
Demain, oui. Surtout grâce au soutien continu de certains de nos bailleurs de fonds. Mais dans le moyen et long terme, l'agence ne pourra plus fonctionner si les bailleurs de fonds qui ont suspendu leur financement ne reviennent pas. Ceci dit, nous parlons d'allégations, d'accusations autour de 12 personnes présumées ayant participé au massacre horrible du 7 octobre. Nous avons une enquête en cours, mais j'aimerais mettre juste un peu de cadre, de contexte. Nous parlons de 12 personnes présumées avoir participé sur un total de 13 000. C'est moins de 1% du personnel de l'UNRWA, mais même ce moins de 1%, nous le prenons très, très au sérieux. Il y a une enquête des plus hautes instances des Nations Unies en cours. Il y a aussi une révision de nos systèmes internes de nos systèmes qui régissent le comportement du personnel. Et cette révision, elle est sous la direction de Madame Catherine Colonna.
L'association France-Israël, Alliance Générale Koenig, accuse l'UNRWA de crimes contre l'humanité, de complicité de crimes contre l'humanité. Êtes-vous coupable de crimes contre l'humanité ?
Nous ne sommes pas coupables de crimes contre l'humanité. Je trouve d'ailleurs une accusation comme ça extrêmement dangereuse dans une ambiance tellement explosive comme à Gaza et au Moyen-Orient en ce moment. Ce sont des accusations très 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 mal fondées et puis une utilisation de vocabulaire et de terminologie absolument inacceptable. Crime de guerre est un terme légal qui est très bien défini dans le droit international humanitaire. Je trouve très irresponsable ce genre d'utilisation de termes.
Selon vous, Tamar Al-Rifai, est-ce que dans le climat ambiant, dans le contexte ambiant, c'est une accusation, une tentative de déstabilisation du travail de l'agence ?
Ça fait partie d'une série de tentatives de déstabiliser l'agence. Il faut rappeler que l'agence est la plus grande agence à Gaza en ce moment, mais aussi une agence répandue dans la région, donc avec des opérations, des écoles, des centres de santé primaires, donc des services de base en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en Syrie, au Liban et en Jordanie, qui s'occupe des réfugiés de Palestine, une catégorie de réfugiés dont le sort n'a pas été réglé depuis 75 ans. Donc il y a un côté très politique et politisé à ces accusations.
Et on parlait de 12 agents de l'agence qui sont donc accusés par Israël d'implication dans l'attaque du 7 octobre. Vous disiez qu'il y avait en ce moment des enquêtes internes. Tamar Al-Rifai, est-ce que d'autres agents de l'UNRWA ont été identifiés comme ayant pu être impliqués dans les attaques du Hamas contre Israël ?
L'UNRWA a reçu du gouvernement israélien une liste de 12 noms. C'est la seule interaction officielle que nous avons reçue, que nous avons eue avec le gouvernement israélien autour de cette histoire. Et c'est pour ceci que l'enquête, qui est une enquête externe et indépendante, ce n'est pas une enquête interne, elle a été commissionnée par le secrétaire général des Nations Unies, regarde de près ces allégations autour de 12 personnes.
Et selon vous, il n'y en a pas d'autres.
Sur 13 000.
Selon vous, il n'y a pas d'autres que 12 personnes parmi l'UNRWA qui ont pu être impliquées dans les attaques ?
Nous avons reçu 12 noms du gouvernement d'Israël.
Merci beaucoup, Tamar Al-Rifai, d'avoir été ce matin l'invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes directrice de Relations extérieures et de la communication de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à nos questions. Vous étiez l'invitée de la matinale sur RCF.